France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Marie-Thérèse Orin, chanteuse, actrice, fantaisiste qui a écumé tous les cabarets parisiens après avoir débuté grâce à Patachou, s'être fait remarquer auprès de Louis de Funès et avoir chanté chez Suzy Solidor. Ses souvenirs sont pleins de couleurs pour évoquer Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Georges Brassens, Gribouille et faire revivre un métier d'artiste qu'elle incarne jusqu'au bout des ongles. Marie-Thérèse Orin à ce micro dans un instant. Mais d'abord, puisqu'ils sont si tristement fermés, je vous invite au bistrot pour quelques conversation de comptoir.
L'argent est si faux.
Bonjour,
comment ça va?
Bonjour, Kiké.
Ça va bien, merci.
Merci.
Bon, on va prendre un petit guignol et presse.
Garçon.
Tiens, monsieur Papouille. Je connais un bonhomme, pas méchant en somme, mais qui joue au type bien renseigné. Il s'appelle Papouille, ça rime avec nouille, et c'est un indice pas à dédaigner. Café du commerce, c'est là qu'il exerce, on parle des courses demain à Longchamp. Je crois que dans la dernière, il y aura une affaire, le cheval à Rothschild, ça c'est un gagnant. V'là monsieur Papouille qui s'avance, v'là monsieur Papouille qui sait tout. Votre calasson n'a pas de chance, il a des crevasses plein les genoux. Je le tiens du coiffeur au propriétaire, du marchand qui vend les bottes au jockey, qui lui-même le tient de la crémière, où monsieur Rothschild prend son lait. Alors, garçon, un picon curaçao. La chose est si claire qu'il n'y a qu'à se taire, alors on change de conversation. Oh, quelle drôle d'époque, dit monsieur Duchenoc, on vit constamment dans les émotions. Monsieur Tartignol, qui a les yeux de traviole, renchérit, c'est vrai, nous sommes menacés. Est-ce que notre France aurait la puissance, en cas de conflit, de tout repousser? V'là monsieur Papouille qui s'avance et qui va mimer ce qu'il dit. Tenez, cette soucoupe, c'est la France. Cette petite cuillère, c'est l'ennemi. Ce morceau de sucre, c'est l'artillerie lourde. Ma pipe représente nos meilleurs avions. La bataille commence. Et cette gourde balance en même temps deux siphons. Aïe. Garçon, un guignol et kirsch. Il y a un malaise, on essuie les chaises. Et puis l'on aborde un sujet moins vif. Parlons des jeunes filles. Le jeune Lagodie dit, les demoiselles adorent les sportifs. Erreur, dit le poète Théodore Craspet. Ce qu'elles aiment surtout, c'est du sentiment. Le vieux père Truffet me dit, mais non, ce qu'elles aiment, c'est un homme posé de 75 ans. V'là monsieur Papouille qui s'avance. Moi, ma petite amie, voyez-vous, raffole de moi pour ma science et m'adore parce que je sais tout. Alors excédé, son ami Arsène lui dit, tu sais tout, t'en es convaincu. Y a pourtant une chose qu'il faut que t'apprennes, c'est que depuis 2 ans, t'es cocu. Voilà. Garçon, c'est pour monsieur les consommations.
L'excellent Georgius en 1939 avec l'orchestre de Raymond Vraskoff dans cette chanson intitulée, vous l'avez compris, Monsieur Papouille. Et puis avant de retrouver notre invité, je voudrais saluer un merveilleux artiste qui nous a quittés voici quelques jours, le 30 janvier dernier, à l'âge de 92 ans. C'était un homme aussi simple et chaleureux que grand artiste du chant français. C'était monsieur Michel Trampon, que j'ai eu la chance de connaître un peu, et qui avait, comme beaucoup de Belges de sa génération, une profonde connaissance du répertoire d'opéra comique et d'opérette. Lui, qui était né près de Mons, est passé par les troupes, notamment celle de La Monnaie à Bruxelles. Michel Trampon, baryton de grand style, on va le retrouver tout de suite justement dans un air longtemps célèbre d'un grand compositeur franco-belge, monsieur Grétry, et c'est l'air de Richard Cœur de Lion.
Thank you.
créateur, il n'est donc moi qui s'intéresse à ta personne. Moi seul dans l'univers voudrais briser tes fers et tout le reste t'abandonne. Noble ami, hélas, son cœur doit être navré de douleur. Oui, son cœur est navré, navré de douleur. Monarque, cherchez, cherchez des années, non sous les lauriers de la gloire, mais sous les myrtes favoris. Qu'offrent les filles de mémoire. Un troubadour est tout amour, fidélité, constance, et sans espoir de récompense. Oh Richard, oh mon roi, l'univers t'abandonne, sur la terre il n'est que moi, il n'est que moi, qui m'intéresse.
Richard, ô mon roi, le grand air de Richard Cœur de Lion de Grétry par Michel Trampon, qui nous a quittés le 30 janvier dernier, mais qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure en fin d'émission.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Car sans plus attendre, il est temps de retrouver mon invitée. Je l'avais déjà reçue une fois à ce micro. Et puis elle était venue aussi aux 20 ans d'Étonnez-moi Benoît. Son mélange d'énergie, de verve et tous ses talents sont très communicatif et même irrésistible, mais en plus de cela, elle a une sacrée collection de souvenirs remontant même jusqu'à Damia ou jusqu'à Gaston Ouvrard. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Marie-Thérèse Aurin.
Tous mes amants s'appellent Henri, c'est le prénom de mon mari. Quand je rêve la nuit, je crie Henri encore, encore Henri. Jusque-là, tout allait bien, mais vigilance, on ne sait jamais. Je ne mets mon corps en péril qu'en compagnie d'hommes stériles. J'ajoute à titre préventif la pilule au préservatif. Jusque-là, tout allait bien, mais vigilance, on ne sait jamais. Prophylaxie et prévention, prévoyance et circonspection. La prudence est mon obsession, je prends garde à faire attention, j'applique sans modération le principe de précaution. J'ouvre un œil pendant le sommeil, une oreille avant le réveil. Je convoque mes médecins dès que sort un nouveau vaccin. Jusque-là, tout allait bien, mais vigilance, on ne sait jamais. Qu'on entende par-ci, par-là, feu maréchal, nous revoilà. J'exhume un portrait de Pétain. Notre avenir est incertain. Oh combien, jusque-là, tout allait bien. Mais vigilance, on ne sait jamais. Prophylaxie et prévention. Prévoyance et circonspection. La prudence est mon obsession. Je prends garde à faire attention. J'applique sans modération le principe de précaution. En cas de jugement dernier, j'aurai toujours dans mon grenier la Bible, un Talmud, un Coran, la girouette de Talleyrand.
Bonjour Marie-Thérèse Aurin.
Bonjour Benoît.
Ça s'appelle le principe de précaution, on l'aura compris.
C'est circonstance.
C'est absolument. Cette chanson très, très joyeuse et fantaisiste, signée Bernard Joyer.
Bernard Joyer, qui a un énorme talent d'auteur et d'interprète, parce que moi je l'ai vu en récital. C'est très, très chouette ce qu'il fait. Et je trouve que c'est un garçon qui devrait éclater.
Être encore plus dans la lumière.
Voilà, être plus, comme vous dites, dans la lumière.
Et donc, vous chantez ces chansons parmi beaucoup d'autres. Évidemment, on va en reparler ce matin. J'avais déjà eu le plaisir de vous recevoir. Puis vous êtes venu aux 20 ans d'Étonnez-moi Benoît.
Ah oui, c'était une soirée à étonner des princes, comme aurait dit Jean-Claude Pascal.
Vous aviez fait un tabac. Le public était fou de joie devant
C'était magnifique.
Votre chanson, qui était un peu d'ailleurs dans le même registre, on pourrait dire le registre de fantaisiste.
Oui.
Vous avez, parmi beaucoup d'autres qualités, mais un instinct aussi pour faire rire. C'est quelque chose que vous avez toujours eu? C'est inné ou c'est quelque chose qui se travaille?
Quand j'ai débuté au théâtre,
on
me distribuait, et puis étant donné mon timbre de voix et mon accent, je ne sais pas où j'ai été le chercher.
L'accent parisien, mais
j'avais l'accent parisien.
Alors vous n'êtes pas parisienne d'ailleurs.
Pas du tout, je suis auvergnate. Et quand je suis arrivée au cours Simon, René Simon, à la première scène que je lui ai passée, me dit « Eh ben toi, il n'y a pas besoin de te demander d'où tu arrives. » Je lui dis « Moi, monsieur, de Nice. » Il m'a dit « Écoute, ma petite fille, si tu dois rentrer dans la maison, il faut que tu saches un truc. J'ai horreur qu'on se foute de moi. » Mais je lui ai dit « Je vous jure, monsieur, j'arrive de Nice. »
Et on vous a tout très naturellement donné des rôles comiques.
Des rôles comiques, bien sûr. Donc, j'ai fait 5 ans de théâtre de boulevard avant de tomber dans une comédie musicale et rencontrer Patachou.
Et de vous tourner vers la chanson.
Et voilà.
Voilà. On a besoin de cet art, justement, de fantaisiste un peu oublié aujourd'hui, même si vous pouvez aussi chanter des très belles chansons très mélancoliques. Et c'est pourquoi je suis content aussi que vous reveniez, parce que vous savez, vous êtes une espèce de légende, Marie-Thérèse Aurin.
Allons bon.
Mais oui, vous êtes la personne qui a une présence scénique dans les cabarets depuis quoi? Depuis 60 ans presque.
62, j'ai commencé. Et on n'est pas loin.
Oui, ça fera bientôt 60 ans.
Oh là là, on va fêter ça.
Et vous avez un public de fans qui ne rate aucun de vos spectacles, parce qu'ils savent que vous avez toujours aujourd'hui la même fraîcheur que dans les années 60. Vous êtes intact, comme vous dites.
Je m'amuse autant. Oui, d'ailleurs, le disque, on l'avait titré Intact, parce que j'ai dit à Claude Lemel, le jour où il est venu...
Bon, Claude Lemel, le grand parolier...
Qui m'a fait l'honneur de m'écrire une chanson sur mesure. Ça, c'est le rêve, quand des auteurs de grand talent vous... dédie un texte, c'est une consécration. Et je dois dire, quand il est venu, il m'a dit « Racontez-moi un peu votre vie. » Ben, je lui ai dit « Écoutez, je réfléchissais et je suis arrivé à la conclusion, j'ai vu défiler 9 présidents de la République. On a toujours entendu les mêmes discours, il va falloir faire des efforts. » Oh là là, l'austérité, oh là là. Et on est toujours dedans. Rien n'a changé. Alors, je lui dis, ben voyez, moi je sors de tout ça intact. Il m'a fait, ça me plaît. Et c'est comme ça qu'on a titré le disque Intact.
Intact, voilà. C'est
Et c'est vrai, parce que je m'amuse. Je m'amuse quand j'adore être sur scène.
Oui.
Et j'adore le public.
Voilà, vous adorez tellement être sur scène, vous y avez beaucoup été, vous avez peut-être d'ailleurs un petit peu négligé la partie discographique de votre carrière, mais on a quand même des archives, on va en écouter.
C'est pas tellement que j'ai négligé, ils m'ont négligé.
On peut dire ça comme ça. Et je vous propose, Marie-Thérèse Aurin, qu'on remonte un petit peu dans le passé, jusqu'à votre tendre enfance, justement à Clermont-Ferrand. «
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, 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 font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum. Je n'entends que boum boum, ça fait toujours boum 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 boum.
Boum, c'était Charles Trenet, une des chansons qu'on entendait juste avant la guerre. Vous êtes né un tout petit peu...
Un petit peu, oui.
Avant la guerre, Marie-Thérèse Orin.
Juste avant les hostilités.
Avant les hostilités. Et j'imagine que voilà, vous entendiez aussi les chansons de traînée dans votre enfance.
Bien sûr. Alors, c'était ma mère qui engageait. Il y avait une grande terrasse.
Voilà, parce que vos parents avaient la brasserie de Clermont-Ferrand en face du théâtre qui s'appelait Le Café de Paris.
Oui.
Et votre mère, donc
Et ma mère, c'était ma mère qui venait à Paris pour acheter les tapis pour l'hôtel, parce qu'il y avait un hôtel au-dessus de la brasserie, les tapis et... les orchestres.
Ah, voilà.
Alors, elle allait à ce qu'on appelait la foire aux musiciens.
Ah oui?
Et elle allait choisir.
Et vous parliez de président de la République. Il paraît que même Georges Pompidou venait jouer à la belote dans la brasserie de vos parents.
Oui. Il y avait le père ou le grand-père de Giscard, parce que Giscard était de Chamaillère.
Ouais.
Alors, donc, un quartier de Clermont-Ferrand. Et il y avait Pompidou qui venait taper le carton après, parce qu'il était au lycée Blaise Pascal, à l'époque.
Ah ouais?
Il adorait ma mère, alors ma mère était derrière sa caisse, et il allait vers ma mère, il disait « Oh, ma petite Rinette », alors elle l'appelait « Mon petit pompon, mon petit pompon ». Et quand il a été élu président, les mères, vous savez, l'amour maternel n'a pas de limite, alors quand il a été élu président, ma mère m'a dit « T'as vu ? Pompon vient d'être élu ». Alors, tu vas aller à l'Élysée, tu vas lui dire « Je suis la fille de Rinette ». J'ai dit « Mais oui, maman, mais bien sûr, on va me dérouler le tapis rouge ». Les mères sont merveilleuses.
Vous alliez aussi voir les opérettes qui se donnaient en face au théâtre de Clermont-Ferrand
bien
à
sûr,
l'époque. Vous en avez quelques souvenirs?
Bien sûr, oui. Il y avait des opérettes, mais il y avait aussi du théâtre.
Oui.
Et il y avait une pièce avec Françoise Rosay.
Voilà.
Oh, elle m'avait impressionnée. Ouais. Et elle logeait à l'hôtel. Alors le matin, j'allais prendre le petit déjeuner avec elle. J'avais 4 ans.
Bon, aussi bien que quelques années après, quand vos parents ont quitté Clermont-Ferrand pour s'installer à Nice, vous, ça n'a pas tardé, hein, l'école, c'était pas vraiment ce qui vous intéressait. Vous êtes entré au Conservatoire de Nice, et c'est là que vous avez vraiment mis le pied à l'étrier. C'était bien d'ailleurs le Conservatoire de Nice à l'époque.
Ah oui. On avait un prof qui s'appelait André Polac, qui avait été aux Français, et qui était un type formidable, gentil, et Alors, ça fonctionnait très bien. Oh, moi, je suis restée 2 ans au Conservatoire de Nice.
Voilà. Et puis, vous vous êtes présentée à un concours de cinéma organisé par Radio-Télévision Monte-Carlo.
Oui, et dans le jury, il y avait Georges Guettari, avec qui j'ai travaillé plus tard dans Tom Jones.
Mais sauf que là, vous ne pensiez pas à la chanson, vous pensiez plutôt au théâtre et au cinéma.
Oui, au théâtre, au cinéma.
Voilà, c'est ça. Et vous avez gagné.
Et j'ai gagné ce concours. Il y a eu des éliminatoires, c'était un peu comme le jeu de la chance. Des éliminatoires qui ont duré de février à septembre suivant. En septembre, il y avait la grande finale au Théâtre aux Étoiles. Et il y avait un très très beau jury. Il y avait entre autres Vittorio De Sica, qui était beau, qui était qui avait un charme. Et j'ai gagné la finale.
Voilà, et c'est comme ça que la petite Aurin est montée
à Paris.
Et
ben c'est comme ça que la petite Aurin a gagné un billet pour Paris.
Voilà, ça faisait partie d'ailleurs des récompenses.
Hein,
voilà.
Et à l'époque, 1000 francs. Ça faisait une somme à l'époque.
Et voilà. Ça permettait de s'installer dans une chambre de bonne,
voilà.
De se présenter au conservatoire et qu'on
me balaye.
Renvoie avant la fin de la scène.
Au bout de 2 phrases, même pas, 2 phrases. Drolin, drolin, merci mademoiselle, au suivant.
C'est pas drôle. Et finalement, le cours Simon, qui a été votre première maison, même si c'était déjà pas facile, vous avez failli arrêter plusieurs fois à ce moment-là. Hein, mais au cours Simon, vous avez trouvé quand même... Voilà.
J'ai eu des copains formidables. Ouais. Formidables. Et j'ai eu, entre autres, une fille qui venait de Toulon. Et quand elle m'a entendue en arrivant au cours Simon, il y a Jacques Balutin, qui était déjà élève, alors qu'il nous le faisait un peu à l'estomac. Et il m'a dit, t'arrives d'où, toi? Je lui dis, moi, de Nice. Et... elle m'a entendue, elle a dit « Vous êtes de Nice ? Vous êtes de Nice ? Mais moi j'arrive de Toulon ! Oh, je passe Phèdre, vous me faites la confidente ?» Alors je lui fais « Oui, oui ». Elle me file le texte et nous avons passé Phèdre. Moi avec mon accent parigot, elle avec son accent Toulon, on a fait un tabac.
J'imagine. Mais c'était un tabac comique involontaire.
C'était un comique involontaire, mais ça a mis dans le mille, hein, je vous le dis.
À propos de comique, vous êtes ensuite entré donc dans la compagnie de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, qui avaient à l'époque une espèce de revue hein, avec plein de comédiens, de musiciens.
Avec des comédiens, il y avait un orchestre de 12 musiciens. Moi, j'ai participé à la revue qui s'est faite juste avant les Plumes Rouges.
Voilà.
Et on a joué 3 semaines à l'Alhambra, parce qu'à l'époque, l'Alhambra, qui était en plein boom, l'Alhambra de la rue de Malte, qui était une salle magnifique, 2200 places.
Plus, ouais.
Oui. Donc, on a fait 3 semaines là. Du coup, on a été engagé. Après ça, on est resté 4 mois au Théâtre des Variétés, sur les boulevards. Et après, on est parti. On a fait presque 1 an de tournée. Je suis resté 1 an et demi dans leur troupe.
Voilà, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, que j'avais eu la joie de recevoir d'ailleurs l'un et l'autre ici. Et qui étaient fort sympathiques.
C'était formidable. Ouais. Ils étaient drôles. Et puis alors là, c'était une sacrée formation. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'improvisation en fonction des circonstances et du public. Et, ouh là là, alors ça a formé. Hein, c'était une bonne école.
Voilà, et c'est là qu'est arrivé, peu après, un événement qui a quand même été important dans votre carrière et qui reste dans les mémoires parce que l'adaptation cinématographique a été un grand succès, ça a été Oscar avec Louis de Funès, vous êtes parti en tournée avec lui. Et je propose qu'on écoute, Louis de Funès tout de suite pour le plaisir.
Oh oui.
C'est à peu près au moment où vous avez travaillé avec lui et où il donnait un autre spectacle qui s'appelait La Grosse Valse.
Ah oui, que j'ai vu.
Robert Derry.
Oh, c'était extraordinaire.
Il joue ici le rôle d'un douanier qui préfigure le gendarme qu'il allait devenir. Mmh. Un douanier qui essaie de flatter son chef et qui est extrêmement drôle.
Un peu lèche-botte, oui.
Très de Funès, déjà.
Hé, hey, porteur.
Ouais.
Porteur, vous croyez vraiment que monsieur le douanier va me laisser passer? Au fond, il a l'air bon, hein.
Bon, lui, il est bon comme la douane.
Je suis bon comme la douane. Je suis bon comme la douane. C'est pas péjoratif, ça. Hein? Antoine!
Oui, chef.
Tu es bon comme la douane.
Je suis bon comme la douane, chef?
Non, je comprends. Non, je suis bon comme la douane. Tu es bon comme la douane.
Je suis bon comme la
douane. Non! Vous savez, je suis bon comme la douane. Tu es bon comme la douane. Et Pépito, il est bon comme la douane.
Je suis bon comme la douane, chef?
Non!
Tu es bon.
Non! Si, attends, bon. Attends, je suis bon comme la douane. Tu es bon comme la douane, il est bon comme la douane. Je suis bon comme la douane, tu es bon, il est bon comme la douane, je tue, il est bon.
Nous sommes bons comme la douane, vous êtes bon, On est tous comme la douane, on est vraiment bon. Ce qu'on est bon.
Alors attendez, bon, bon. Bon comme un potage au vermicelle,
bon comme une tranche de melon,
bon comme l'affaire de bretelle
qui nous retient notre pantalon. Ce qu'on est bon,
comme la douane, tu es bon, il est bon, comme la douane, je tue, il est bon, nous sommes bons. Comme la douane, vous êtes bons. On est tous comme la douane.
On est vachement bons.
Ce qu'on est bon.
Oh, bon comme les rognons à la crème.
Bon comme celui qui a fait le règlement.
Très bien, chef. Bon comme mon bon chef que j'aime.
Bon comme la caresse d'un amant. Il est bon.
Il est grand.
C'est un bon grand.
C'est un grand bon.
Ce qu'on est bon.
Comme la douane, tu es bon.
Il est bon.
Comme la douane, je tue, il est bon.
Nous sommes bons.
Comme la douane, vous êtes bons.
On est tous comme la douane, on est vachement bon. Ce qu'on est bon.
Comme la lune.
Attendez, bon comme la lune qui là-haut se cache.
Bon comme les bœufs qui tirent la charrue.
Bon comme un baiser dans ma moustache.
Bon comme de l'huile de pois de morue. C'est pas bon.
Bon comme le bon lait de ma nourrice.
Bon comme un bonbon qui colle aux dents.
Bon comme mon bon chef que j'aime.
Car notre bon chef est bon enfant. Ce qu'il est bon.
Comme la douane, tu es bon.
Il est bon. Comme la douane, je tue, il est bon. Nous sommes bons.
Comme la douane, vous êtes bons.
On est tous comme la douane, on est vachement bons. Ce qu'on est bon,
ce qu'on est grand.
Et vous êtes de la douane le chef le plus bon.
Le meilleur.
Si tu veux.
Si je veux.
Tu es bon.
Je suis bon.
Non! Moi, je suis bon, et toi, tu es bon comme la douane.
Vous, vous êtes bon comme
la douane. Non, vous savez, moi, je suis bon comme la douane, toi, tu es bon comme la douane, je suis bon comme la douane. Mais c'est pas péjoratif, ça.
Il était comment, de finesse, Marie-Thérèse Aurin, dans la longue tournée que vous avez faite ensemble.
Il était sympa, il était adorable, Louis.
C'est vrai.
Ah oui, vraiment, moi, je m'entendais très très bien avec lui. Il était exigeant dans le travail.
Ah oui.
Il fallait que le boulot soit bien fait.
Parfait.
Hein,
ouais.
Parfait. Parce que lui, c'était une horloge. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Lui, c'était extraordinaire.
Il faisait toujours la même chose, exactement.
Comique d'horlogerie. Ah oui, oui,
ah oui,
oui.
Ah oui.
C'était. Mais il me faisait rire.
Vous êtes même allé en Afrique du Nord ensemble.
Ah, on a fait, oui, on a fait les trois pays du Maghreb. On est resté un mois en Afrique du Nord. On a fait Alger en pleine guerre.
Ah oui.
Là, il y avait une ambiance. Et évidemment, les salles de spectacle étaient pleines, surtout pour des spectacles comiques, parce que les gens avaient envie de se distraire. Hein.
Bien sûr. Et ça, c'était donc la tournée d'Oscar.
La tournée, Carcenti.
Un immense succès.
On a fait 4 mois.
Vous avez mis vraiment sur les rails du théâtre, mais pas encore de la chanson.
Oui.
Parce que la chanson, elle est arrivée un petit peu après, on peut dire, grâce à Patachou.
Ah, grâce complètement à Patachou, parce que j'aurais pas imaginé chanter. Mais comme j'avais participé à des spectacles musicaux, puisqu'avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, on chantait en chœur, aux Oires-la-Ferrière, en poussant les décors. Bon, alors donc je chantais gentiment,
naturellement.
Quoi,
ouais.
Naturellement. Et quand on répétait L'impasse de la fidélité.
Donc une comédie musicale. Hein,
D'Alexandre Bréfort,
voilà,
qui avait écrit Irma la douce.
Voilà.
Et c'était sa deuxième comédie musicale.
Vous aviez été engagé pour un,
voilà.
Plusieurs petits rôles.
C'était la même productrice qui s'appelait Janine Dalméda qui m'avait engagé pour la tournée d'Oscar Et après, on avait repris 2 ans à la Porte Saint-Martin, Oscar. On a joué, après la tournée, on a joué 2 ans à la Porte Saint-Martin. Et elle me dit, ah Marie-Thérèse, je monte à la rentrée prochaine une comédie musicale et il y a des petits rôles dedans, mais vous savez, je vous verrai bien, il y a 2-3 petits rôles, je vous verrai bien là-dedans. Bon, moi j'ai dit, moi on me disait, je venais, hein. Je faisais pas ma sucrée, comme on dit.
Ma sucrée, c'est
Et alors, j'ai été engagée dans cette comédie musicale, l'impasse de la fidélité.
Donc Patachou était la vedette.
Patachou. Que je n'avais jamais approché. Et bon, alors je la regardais un peu avec respect. Et à l'époque, elle était vraiment en plein boom. Donc, elle partait en répété en plein été pour jouer à la rentrée. Et elle avait beaucoup de galas dans des stations thermales, balnéaires et tout type. Donc, elle avait des jours d'absence. Et le metteur en scène, qui était Jean-Pierre Grenier, de la compagnie Grenier-Husneau, m'a dit, tiens-toi, au lieu de regarder les autres travailler, viens donc, tu vas me doubler Patachou. Bon, on me dit, je fais. Le compositeur s'est amusé à m'apprendre les chansons. Et au bout de quelques temps, elle est arrivée un jour à la répétition, j'étais sur scène à sa place.
Elle vous a entendu.
Et en train de chanter un air de son rôle. Alors elle est arrivée, ça, je la revois, elle a traversé la salle du théâtre et elle est arrivée sous la scène, elle m'a fait, t'es chanteuse toi ? Je lui fais non, madame, non, on me demande de faire ça, je le fais, mais je suis pas chanteuse, non. Alors elle monte sur scène et là je la prenais par la main et je lui faisais faire son trajet parce qu'il y avait des ballets.
Ouais, et vous aviez préparé.
On circulait autour des danseurs et elle me dit, t'as pas voulu me le dire tout à l'heure devant les autres, mais t'es chanteuse. Je lui dis, mais non, madame, enfin, mais elle me dit, t'as déjà chanté. J'ai dit, oui, l'année dernière, il y a 2 ans, chez Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, au Zoir La Ferrière, en poussant les décors, en chœur. Bon, mais non, elle me dit, t'as jamais chanté seule ? Eh ben, tu devrais. Allez, chiche. Je te donne pas de directive. Tu te débrouilles, tu cherches 4-5 chansons, tu les prépares, tu te trouves un pianiste, tu te débrouilles. Et quand t'auras 4 ou 5 chansons de prête, tu me dis, Pat, ça y est, j'ai 4 chansons, j'ai 5 chansons. Tu viens déjeuner à la maison et je te dirai si ça vaut la peine de continuer.
Et ça s'est passé comme ça ?
Comme ça, exactement.
Mais elle avait son cabaret à l'époque ?
Non, elle n'était déjà plus dans son cabaret.
Elle n'avait plus son cabaret. Non. Donc c'est pour ça que vous avez commencé dans d'autres cabarets.
Dans d'autres cabarets. Mais je suis passée chez Patachou, mais Patachou n'était plus là. Mais cette femme a été extraordinaire. Et à la fin de cette audition, elle me dit... Oui, faut continuer. Et je vois très bien ce qu'il te faut comme répertoire. Le mien. Et je me suis dit, tout s'arrête à la minute, parce que c'est pas un métier de philanthrope, hein, faut pas s'illusionner. Donc je me suis dit, ça s'arrête. Et ben, pas du tout. Elle m'a fait faire la Tour Eiffel. En première partie de son programme, quand elle dirigeait, qu'elle était directrice artistique de la Tour Eiffel. Et elle m'a fait faire ma première télé, l'École des vedettes. Avec Aimé Mortimer.
Voilà, et comme Patachou, vous avez effectivement, Marie-Thérèse Aurin, un répertoire très très varié qui va du comique au poétique et au mélancolique. Et on va tout de suite en avoir un témoignage avec un très joli enregistrement que vous avez fait d'une chanson de Boris Vian, quelques années plus tard. Ça s'appelle...
Ça, c'est un beau souvenir.
Que tu es impatiente.
Oui.
La mort est passée ce soir-là pour prendre un gosse de 15 ans, pour le serrer dans ses grands bras et l'étouffer avec sa robe de jacinthe. La mort a couché ce soir-là dans le lit d'une belle fille pour une étreinte d'une fois. Et n'a laissé que cendres froides et sans parfum. Que tu es impatiente, la mort. On fait le chemin au-devant de toi. Il suffisait d'attendre. Que tu es impatiente, la mort. La partie perdue, tu le sais déjà. Tout recommencera. Le soleil sur l'eau, tu n'y peux rien. l'ombre d'une fleur, tu n'y peux rien. La joie dans la rue, les fraises, les bois, tu n'y peux rien. Un sourire en mai, une valse, valse, un bateau qui passe, tu n'y peux rien. Un oiseau qui chante, l'herbe du fossé et la pluie, tu n'y peux rien. La mort est revenue ce soir avec sa robe d'iris noir. La mort est revenue chez moi. On a frappé, ouvrez la porte, la voilà. Elle brûlait comme une lampe dans une nuit près de la mer. Elle brûlait comme un feu rouge à l'arrière d'un camion sourd sur les chemins. Que tu es impatiente, la mort, on fait le chemin au-devant de toi. Il suffisait d'attendre. D'attendre.
Que tu es impatiente, c'était Marie-Thérèse Orin dans En avant la Zizik, le nom de ce spectacle sur Boris Vian, en 68, qui avait eu un grand succès, hein, Marie-Thérèse
Orin. Ah oui, on avait créé ça à la Maison de la Culture d'Aix-en-Provence.
À l'initiative de France Culture, il faut le dire.
À l'initiative de France Culture, qui était producteur.
Vous deviez le reprendre à Paris en mai 68, c'est
en
mal tombé.
En mai 68, là, il y a eu quelques problèmes. Et on finalement... l'a repris en octobre 68 à la Gaîté Montparnasse. Ouais. C'est-à-dire que Michel Fagadeau, qui était le directeur, voulait commencer les spectacles de 18h30. Il avait encore jamais fait de spectacle à 18h30. On a donc essuyé les plâtres. Ça a marché le tonnerre tellement qu'en janvier, il nous a dit, si vous rallongez le spectacle d'une heure, je vous mets à 20h30. Voilà. Et on a fait toute l'année suivante.
On en avait parlé déjà la dernière fois, mais je voudrais y revenir un peu. Durant toutes ces années qu'on suivit le lancement de Patachou, vous avez fait tous les cabarets possibles de Paris, parce qu'on en faisait plusieurs chaque soir pour vivre. Hein.
Bah pour gagner sa vie, parce que c'était quand même, à l'échelle de Jacob, je gagnais 10 francs.
Voilà, bah justement, l'échelle de... je voudrais quand même qu'on revienne à un ou deux souvenirs. L'échelle de Jacob, c'est le premier où vous avez chanté
C'est le premier.
Oui, vous vous rappelez votre premier soir à l'échelle de Jacob?
Oh oui, oh, ça je m'en souviens. Un monsieur était venu, j'étais dans un cours qui était l'équivalent du cours Simon, mais en chanson, oui. Qui était dirigé par Christiane Néré, qui avait été chanteuse. J'adorais cette femme aussi, elle me faisait penser à Piaf, elle avait une personnalité. Et donc, elle faisait des auditions, comme au cours Simon, et elle faisait venir des professionnels. Et un monsieur était venu, il était directeur artistique chez Pathé Marconi, puis ailleurs. Et il m'a dit, ah, j'aime bien ce que vous faites, ah, c'est drôle, c'est bien. Il me dit, alors écoutez, je vais en parler à Madame Lebrun à l'échelle de Jacob, parce que en été, elle prend des petits programmes des jeunes. Alors, peut-être que je pourrais vous caser là. Ah, merci monsieur. Il me dit, rappelez-moi dans 10 jours. 10 jours après, je l'appelle, il me fait, ma pauvre petite, je vous ai fait une offre de Gascon. Non, Madame Lebrun a tout son monde. C'est plein, le programme est plein, parce que les cabarets restaient ouverts tout l'été. Hein. Ouais. On rêve quand on entend ça. Et donc, 10 jours plus tard encore, il m'appelle et il me dit, voilà, il y a un malade à l'échelle de Jacob, donc elle voudrait vous entendre, alors faut y aller ce soir à minuit, je jouais Oscar à la Porte Saint-Martin, je suis donc partie avec mes partitions sous le bras, mes chaussures dans le sac, pour passer une audition. Et j'ai joué ce soir-là, je foutais tout par terre.
À minuit, hein, l'audition.
Hein. Minuit, les auditions, bien sûr. Et je savais plus où j'en étais. Et De Funès, toute la soirée, me fait « Mais Orin, mais enfin Orin, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, vous n'y êtes pas ce soir, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui dis « Louis, vous vous rendez compte? Tout à l'heure, je vais aller à l'échelle de Jacob et je vais chanter toute seule, devant tous ces gens !» Bon, écoutez, Orin, foutez-nous la paix, faites votre boulot. Et je suis arrivée à l'échelle, il y avait 2 clients qui s'embrassaient à bouche que veux-tu sur la banquette du fond. J'aurais pu tomber raide, chanter la Marseillaise, n'importe quoi, ils ne m'auraient pas vu passer. Et Madame Lebrun a eu pitié de moi, elle m'a mis tout le personnel, le barman, la fille
C'était
du vestiaire,
gentil.
Au premier rang pour que j'aie quand même un auditoire. Mais elle écoutait intensément et ça lui a plu. Et je suis restée. Elle m'a dit, vous revenez demain. Et je suis restée 4 mois à l'échelle. Ça a été mon premier engagement de cabaret.
Et là, vous avez vu, je crois, c'est à l'échelle de Jacob, une très grande artiste d'avant-guerre qui vous est venue vous écouter un soir, qui était Damia.
Oui, Damia. Un soir, j'arrive et on me dit, il y a Damia dans la salle. Alors, je faisais la salle, comme on dit. Je regardais, j'essayais de la voir dans la pénombre. Et je suis tombée dessus. Elle était superbe encore et c'était une dame d'un âge très certain. Et je me souviens, elle avait un chignon, les cheveux tirés, les cheveux blancs. Belle, belle. Et ces femmes de cette époque-là, ces chanteuses de cette époque, avaient un port altier. C'était des femmes qui avaient de l'allure, qui avaient de la tenue et qui avaient de la voix parce qu'elles avaient chanté sans micro.
Bien sûr. Une autre qui avait de l'allure et qui était peut-être plus extravagante à sa façon, c'était Solidor.
Ah, Solidor.
Chez qui vous avez chanté sur les hauts de Cannes, c'est
de
ça,
hein, oui.
Où elle avait son cabaret sur la Côte d'Azur.
Oui.
Elle était habillée en amiral, elle avait son public.
Oui.
Et là, vous avez chanté également.
Oui.
Elle était gentille, Solidor.
Deux étés de suite. Oui, moi je m'entendais très bien avec elle. Hein, oui. Elle me faisait rigoler. Alors un jour, je lui dis, mais Suzy, vous avez fait des musicals? Au début de votre carrière, vous avez chanté à Bobino, à Pacra, à l'Olympia. Elle me fait, non ma petite fille, je n'ai jamais chanté chez les autres. On est toujours venu m'écouter chez moi.
Dans ces différents cabarets. Peut-être qu'elle exagérait un petit peu. Mais...
Ah si.
Non, c'était vrai. Oui.
Elle chantait dans ces lieux à elle.
Elle chantait le bateau espagnol.
Oui.
Par exemple.
C'était un grand bateau.
Mon grand bateau d'Espagne a revu l'Amérique. Je reviens plein de joie et la brise en écho a chanté mon retour dès la mer du tropique sur un rythme de flamenco. J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe par le col. Un jour, je m'en irai très loin en Amérique, donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Qu'il est long le chemin d'Amérique, qu'il est long le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forme la jeunesse. T'en fais pas, mon ami, je vieillirai. Rassasié d'or ancien, ployant sous les tropiques, un jour m'en reviendrai les voiles en avant, porteur de blé nouveau, avec mes coups de trique, tout seul mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnol, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant de lueur. Les gens s'écarteront, saluant la Madone, en poupe par le col et d'une autre couleur. Qu'il est doux le chemin de l'Espagne, qu'il est doux le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, je te dirai, mon ami, à ton tour.
Le bateau espagnol, Suzy Solidor, qui avait donc son cabaret où vous avez chanté Marie-Thérèse Aurin, qui était un endroit assez extraordinaire.
Ah, hein, c'était
très
superbe,
bien fréquenté.
Parce que elle avait toute la maison au-dessus. Et elle avait aménagé, c'était les caves, elle avait fait un cabaret superbe. Et il y avait tout autour du cabaret tous ces tableaux.
Fait par des très bons peintres.
Elle avait plus de 400 tableaux peints par tous les grands artistes de l'époque.
Et la clientèle était assez chic aussi.
La clientèle, très très chic. Voilà. C'était la clientèle qu'on voit à Monte-Carlo.
Ouais.
Alors je me souviens d'un soir, parce que comme elle était très près de ses sous, alors ça faisait restaurant. Et un soir arrive José Luis de Villalonga, accompagné de deux très jolies femmes. Elle le regarde arriver, Suzy lui fait « Mais enfin José, mais enfin vous connaissez la maison, mais il aurait fallu venir à 19h manger une petite omelette. Là c'est plein, c'est bourré, je peux pas vous recevoir, c'est pas possible. Oh Suzy, non José, la prochaine fois vous viendrez manger une petite... » Elle, parce qu'elle voulait que les gens dînent.
Consomme.
Elle était extraordinaire.
Et la pianiste qu'on a entendue un peu tout à l'heure, elle était assez pittoresque. Hein.
Oui, Ré Mignard. C'était une institution. Réminiard. Elle avait Jeannine Réminiard. Alors, elle avait toujours accompagné Suzy. Elle était assez buveuse. Elle avait un copain anglais. Alors, à eux deux, à partir de 10h du matin, ils étaient déjà pompettes. Et alors, quand arrivait l'heure du spectacle le soir, évidemment qu'il fallait s'accrocher au bastingage. Alors, Suzy, elle arrivait à l'accompagner, parce que comme ça faisait des années qu'elle l'accompagnait, elle se retrouvait dans ses notes. Mais alors, nous, la première partie... Il y avait des soirs où c'était très sportif. Et un soir, même Suzy y a eu droit. Et Suzy attaque le bateau espagnol, avec le chapeau espagnol, la cape doublée de satin rouge et tout. Et là, on entend derrière « Bing, badabing, bing, bing, bing !» Aïe. Suzy, sans se retourner, fait « Réminiard, allez boire un café !»
Non, mademoiselle, ça va aller, très bien, ça va aller.
Réminiard, je ne le répéterai pas deux fois, allez boire.
Non, mademoiselle.
Et ça repart. Bing, bling, bling. Réminiard, je vous ordonne d'aller boire un café. Et il a fallu la lever du piano, parce qu'il a fallu l'aider.
Elle est morte très âgée, Madame Réminiard, vous savez.
Oui.
Il n'y a pas tellement longtemps.
Oui. J'ai demandé, mais elle vit toujours. J'ai dit, mais comment est-elle? J'ai demandé à une journaliste, elle m'a dit, oh ben elle a une canne, elle marche avec une canne. Je dis, c'est tout. Parce qu'avec ce qu'elle s'est saoulée dans sa vie, elle... Alors, Suzy l'a regardée partir et elle s'est tournée vers le public et elle dit, bon, pendant ce temps-là, je vais vous dire quelques poèmes érotiques.
Allez, soirée chez Suzy Solidor.
Oh, c'était pas triste.
Marie-Thérèse Aurin, c'est bien.
J'ai beaucoup ri dans ma vie, vous savez.
Tiens, encore un personnage d'avant-guerre que vous avez vu. Là, ça, c'était quelques années plus tard. Vous étiez à Bobino avec Georges Brassens et je crois que vous avez vu Ouvrard, le grand comique troupier,
oui.
Calarate qui se dilate. Vous l'avez vu à la fin de sa vie, hein,
en train de chanter. Il était en première partie puisque.
Première partie de Brassens.
Georges faisait 3 mois.
Ouais.
Mais c'était Georges qui choisissait ses premières parties. Donc, Georges devait être client de ce que faisait Ouvrard.
Ça ne m'étonne pas, oui.
Et il avait un âge très, très avancé, Ouvrard, à l'époque. Écoutez, en scène, c'était extraordinaire. Alors, évidemment, il chantait son tube. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, les mollets, trop épais. La salle pliée en 12. Et je me disais, ce type-là, il y a 30 ou 40 ans, devant une salle de l'époque, mais ça devait être gigantesque, ça devait être des hurlements de joie.
Dans le civil, autrefois, je travaillais de telle sorte qu'on me fichait à la porte environ 3 fois par mois. Maintenant que je suis militaire, comme je veux, je peux travailler. Bien ou mal, y a rien à faire, on peut pas me renvoyer. Les fourriers sergents-majors n'ont pas le droit de me foutre dehors. Le capitaine, c'était pas tant, n'a que le droit de me foutre dedans. Ah, que je suis content d'être militaire. Ah, que je suis content d'être soldat, que je suis content. Dans le civil, j'étais mitron et mon singe, un pisse vinaigre, me faisait trimer comme un nègre, j'aurais bouffé mon patron. Maintenant que je sers la France des patrons, je n'en ai plus. Si bientôt faut que ça recommence, en attendant, je m'assois dessus. J'en aurai corps des patrons, comme l'autre singe, ils m'embêteront. Mais en attendant, mon vieux, je bouffe du singe autant que je peux. Ah, que je suis content d'être militaire. Ou que je suis content d'être soldat, que je suis content. dans le civil pour me réveiller. Tous les soirs, fallait que je mette un grand réveil à sonnette à côté de mon oreiller. J'ai la dormoire si profonde qu'en faisant tout son branle-bas, le réveil réveillait tout le monde, mais moi, il me réveillait pas. Maintenant que je suis militaire, j'ai le clairon tous les matins. Si parfois je ne l'entends guère, j'entends toujours les copains. Ils me tirent mes pieds, mon drap, me lèvent la chemise, etc. Et quelquefois, pitant chaud, me jette un cardeau dans le dos. Ouh, que je suis content, que je suis content d'être militaire. Ouh, que je suis content d'être soldat, que je suis content. Dans le civil, je me souviens que pour une malheureuse pituite, je payais 10 francs la visite d'un docteur qui me donnait rien. Il me faisait une ordonnance et cette espèce de paltoquet regardez pas la dépense vu que c'était moi qui payais. Si mon estomac s'ingurge maintenant que je suis soldat, le major me flanque une purge pour rien qui est un peu là. Quand j'ai mal à l'estomac, j'ai 25 grammes d'IPK, un rhume de cerveau dans le nez, j'ai 25 verres de séné. Pour les corps, la pleurésie, 500 grammes de magnésie. Pour les yeux, les genoux, les coudes, 1 kilo de sulfate de soude. Quand j'ai mal à l'intestin, 3-4 litres d'huile de ricin, je ne sors pas un sou de ma bourse et ça me fait tellement courir. Si j'étais un cheval de course, je serais sûr de gagner le Grand Prix. Oh, que je suis content d'être militaire. Oh, que je suis content d'être soldat, que je suis content.
Gaston Ouvrard, qui était donc en première partie, très oui. Vieux monsieur, oui. À Bobino en 1973. Vous étiez vous-même également Marie-Thérèse Aurin.
J'ai fait 3 semaines, puisque ça se découpait par 3 semaines. Donc j'ai fait le programme précédent.
Voilà.
Dans le programme de Georges Brassens.
De Georges Brassens, qui vous avait pas choisi, d'ailleurs contrairement à Ouvrard, c'était plutôt le directeur qui vous avait choisi. Mais finalement, oui. Ça s'est très bien passé avec
très
Brassens.
Bien.
Vous êtes devenus amis, on peut dire.
Oh oui, très, oui. Très amis. Après le deuxième Bobino, puisque j'ai donc fait un deuxième Bobino 3 ans plus tard avec lui. Les dernières, j'ai toujours eu horreur de ça. Je pleure facile, je pleure au cinéma, je pleure partout. Alors il me faisait Foulquin, tu vas encore pleurer. En tout cas, si je refais Bobino, il savait déjà qu'il était malade. Hein.
Ah oui.
Et il m'a fait, si je refais Bobino, je peux te dire que tu feras partie du wagon. Alors là, je renouvelle les sanglots. Il part, il fait 3 pas, il se retourne, il me fait « Parce que pour une bonne femme, t'es pas trop chiante.
» Bon,
venant de lui,
les auditrices apprécieront, mais c'était Brassens.
Venant de lui, c'était oui. Un grand compliment.
Bien sûr, bien sûr. Marie-Thérèse Aurin, donc ce spectacle avec Brassens à Bobino en 73, c'était d'autant plus important que finalement, au cours des années d'avant, ça n'a pas toujours été facile parce que après vos débuts au cabaret, la vague yéyé a un peu tout submergé.
Ah, bah on a été submergé là, oui.
Et voilà, vous demandiez par moments si vous alliez continuer. Et heureusement pour vous, d'une certaine façon, vous aviez beaucoup de cordes à votre arc. Et il y avait aussi le théâtre, il y a eu aussi le cinéma. Vous avez quand même joué
et puis la pub. J'ai fait beaucoup de pub.
Et la publicité, tout ça, ça a été oui. des bons recours.
Des bons relais.
Voilà. Le cinéma, quand même, on vous voit dans Un éléphant, ça trompe énormément, oui. Dans Les Sous-doués, dans La petite voleuse, dans pas mal de
J'ai pas mal tourné aussi pour des téléfilms avec José Dayan.
Oui.
Ouais. Et bon, je vous dis, j'ai toujours travaillé. J'estime que je fais déjà partie des privilégiés de ce métier. J'ai toujours vécu de mon métier. Je n'ai pas eu besoin d'aller me prendre un job à côté pour boucler ma fin de mois. Donc j'estime que je fais déjà partie des privilégiés de ce métier. Et j'aime ça. J'aime ça. Ils me feront pas démordre.
Mais malgré tout, la chanson, pour vous, c'était plus important, plus que le cinéma ou plus que le
théâtre. Ah, ça a pris le dessus.
Ça a pris le dessus.
Parce que le premier soir où j'ai chanté, j'ai découvert la liberté.
Ouais.
Je venais défendre des textes que j'avais choisis.
Ouais.
Quand j'ai joué au théâtre, on me donnait des petits personnages, bon, fortes, en gueule, disons le mot. Bon, et qui correspondait à mon emploi.
Oui.
Mais je ne choisissais pas mes rôles. J'étais pas au stade où je choisissais mes rôles. Je prenais ce qu'on me donnait à jouer. Là, le soir où je suis arrivée devant un public, je venais défendre des textes que j'aimais, que j'avais choisis. Ah, ça, c'est énorme. Et je me dis que pour un auteur, compositeur, alors là, ça doit être le pied. Parce qu'il vient défendre ce qui est sorti de son cœur à lui.
Auteur, compositeur, interprète.
Interprète, oui.
On va écouter justement une petite rareté parmi vos disques. Je disais, vous n'en avez pas fait assez, mais on trouve des choses comme ça, par-ci, par-là. C'est encore d'ailleurs, je crois, en 68. C'est un disque autour de Bernard Dimet.
Ah oui.
Et de ses chansons, vous vous rappelez?
J'ai bien connu Bernard.
Vous l'aimiez bien?
Oh là là, il venait sur la butte Montmartre. À 2-3 heures du matin, il arrivait, bien chargé. Et il nous disait ses poèmes.
Ouais.
Et c'était quand les clients étaient partis, on était là entre nous. Il se mettait contre le piano et il nous disait les derniers textes qu'il venait d'écrire.
C'était à quel endroit, ça ?
C'était au Tire-Bouchon.
Au Tire-Bouchon,
qui était un petit cabaret dans l'impasse traînée.
Ah
tout
oui.
un programme.
C'est un programme. Et celui qui monte ?
C'est dans les bordels. C'était un disque. Mouloudji en était le producteur. Et donc, je faisais partie. Il y avait Rosalie Dubois.
Ouais.
Il y avait du beau monde. Il y avait Madame Steph Passeur qui faisait la tenancière. Oh, qu'est-ce qu'on a pu rigoler en enregistrant ça.
Je fais fi ça pour des canillés. Devant un mec tombe à les épaules. Comme une bouteille de Saint-Galmier. Dans un pucier, ça me fait tout drôle. Quand je ne sens qu'une demi-portion, je me dis j'aurai jamais mon compte, même en variant les positions. Faut bien regarder celui qui monte. Je me souviens, il y a quelques mois, je me suis fait un bourgeois de province. C'était plus vicieux qu'un chinois. Heureusement qu'il était bon prince. Tant qu'il y a de l'oseille, tout est parfait. J'aime bien m'y retrouver dans mes comptes. Comme ça tout le monde est satisfait. Faut bien regarder celui qui monte. Y en a qu'on le souffle trop court, ils font tout le chemin par étape. Entre chaque étape, un discours. Pourtant, faut bien que je me les tape. Mais le pire, c'est les compliqués. J'avoue que parfois j'en ai honte. Même des jeunes et des baraqués, ça se voit pas toujours quand ils montent. Madame qui connaît bien le métier et qu'elle respecte sa clientèle, elle dit bien ce qui passe en premier, c'est la conscience professionnelle. Celui qui monte a tous les droits, faut lui donner tout ce qu'il demande. Quand ils sont pas contents, je le vois, elle regarde ce qui descendent.
Celui qui monte, Bernard Dimet, chanté par mon invité Marie-Thérèse Orin, produit par Mouloudji.
Mouloudji, oui,
grande
oui.
histoire d'amour pour vous, Mouloudji, qui a commencé à l'âge de 12 ans. Hein.
Oh oui, oui, Mouloudji, alors ça a été l'idole de mes 12 ans. J'allais voir Mouloudji dans la maison Bonadieu, dans... Je sortais de là, j'avais les chaussettes en tire-bouchon. C'était l'époque où on pouvait rester deux séances. Alors je me tapais deux séances, et le soir je rentrais à la maison un peu perturbée. Ma mère me disait, mais d'où t'arrives, toi? Et... Je l'ai bouclé.
Quand vous l'avez connu en vrai, dans le monde de la chanson, oui. Il ne vous a pas déçu par rapport à vos...
Je l'ai connu, j'étais chanteuse.
Oui.
Et donc, il y avait de l'eau qui était passée sous le pont. Et il avait un orchestrateur. Parce que là, il faisait de la production de disques à ce moment-là. Il a fait plein de trucs, Mouloudji. C'était un artiste dans l'âme. Il peignait magnifiquement. Alors, il nous raccompagnait. C'était le mari d'une chanteuse. Et il me dit, ah mais il faut qu'on s'arrête à la Villa d'Est, Moulou chanter à la Villa d'Est. Je ne l'avais jamais vu, de près. Et il me dit, on s'arrête à la Villa d'Est parce que je lui porte la maquette qu'on a fait cet après-midi. Bon, très bien. Je me suis nichée dans un coin et je le regardais chanter. Alors il chantait toujours, un jour tu verras. Oh, je me revoyais dans le cinéma, j'étais complètement tourneboulée. Et il dit, bon, alors passez devant, je vous rejoins. Et il a envoyé les autres chercher des hot-dogs chez Fritounette, boulevard de Clichy. Il habitait près du Grand Guignol à l'époque, rue Chaptal. Je reste seule avec lui. J'ai été appuyée sur le capot de la voiture. Il arrive vers moi, parce qu'il aurait dragué une chèvre. Hein. Alors, il me fait Mais vous savez que vous avez de beaux yeux, vous. Oh, je lui dis ça, c'est pas nouveau. Alors, c'est déjà fait, c'est déjà pris. Et là, j'ai été prise d'un fou rire, parce que je me suis dit, s'il m'avait dit ça quand j'avais 12 ans, mais là, c'était l'explosion, je lui sautais dessus. Mais il y avait décalage horaire.
Marie-Thérèse Aurin, merci pour tous ces souvenirs passionnants d'un monde malheureusement un peu disparu aujourd'hui. Il y a aussi une artiste, on va malheureusement pas avoir le temps de développer beaucoup, mais on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui, qui a été très proche de vous et qui a marqué ceux qui l'ont connu, c'est Gribouille,
ah oui.
À qui vous avez consacré des années plus tard tout un spectacle. Vous nous rappelez juste en
un spectacle
mots,
et un livre.
Qui était Gribouille? Et puis on va écouter J'aimerais, mais dites-nous, rappelez-nous en quelques mots, qu'est-ce qu'elle a représenté dans la chanson finalement?
Ah ben, elle a fait une carrière de 5 ans, ça a été très rapide, parce que 5 ans dans ce métier, c'est une traînée de poudre. Et les gens s'en souviennent encore. Parce qu'on a monté un spectacle pour les 30 ans de sa mort. Elle est morte en 68. Et en 98, on a monté un spectacle. Et je me disais, mais qui va-t-on avoir comme public? Des nostalgiques? Pas du tout. Il y avait des jeunes. Parce que le mal-être qu'elle portait en elle, le mal-être de la jeunesse, il n'a pas été en s'arrangeant. Hein. Bon. Donc, il y avait beaucoup de jeunes. Et le spectacle a très très bien marché, on l'a joué dans plusieurs théâtres. Et Gribouille, eh ben, je l'avais découverte à l'échelle de Jacob, elle était venue pour une semaine d'essai, parce que la maison Barclay voulait l'engager, mais il voulait la mettre un peu à l'essai sur le public. Et elle était venue une semaine dans le programme, et j'avais été bouleversée par sa voix, j'avais trouvé qu'elle avait une voix extraordinaire. Et au bout de 8 jours... Un soir, j'arrive, il n'y avait plus ses affaires dans la loge, je dis à Madame Lebrun, elle est partie, la chanteuse? Elle me dit, oui, c'est terminé, oui. Et je l'ai retrouvée 4 ans plus tard. Elle, en 4 ans, elle n'était pas tête d'affiche, elle était américaine, fin de première partie, mais elle tournait beaucoup avec Adamo, avec Mathias, et elle s'était fait un nom, et elle avait écrit Mathias, donc il passait beaucoup en radio. Et je me disais, est-ce qu'elle va me faire le numéro? Oh, rappelez-moi donc votre nom. Pas du tout, parce qu'on a fait entrée libre au grand studio de la maison de la radio, ensemble. Et elle est arrivée, elle m'a dit, oh, ce que je suis contente de te revoir. Et voilà.
J'aimerais une enfance de plus belle mémoire ou de moindre importance, sans muret, sans parloir. J'aimerais une enfance pour me pendre à son cou, où ma mère, quand j'y pense, vous en souvenez-vous? J'aimerais, mes amours, un peu plus de tendresse et moins de fleurs autour, pour moitié de caresses. J'aimerais, mes amours, que vous ne partiez plus. Il n'est rien d'aussi lourd qu'une chambre foutue. J'aimerais une guerre au milieu d'un jardin, coup de ronce et de lierre, Dieu qu'un joli pèlerin. J'aimerais une guerre que l'on gagne par cœur. On aurait pour la faire que des fusils à fleurs. J'aimerais pour ma mort un étang d'Allemagne. Il paraît que l'on y dort mieux qu'en ceux de Bretagne. J'aimerais pour ma mort qu'on réveille Mozart, et puis qu'il joue encore pour brûler nos cafards.
J'aimerais une belle chanson,
oui,
hein, par
Gribouille. Mais elle écrivait bien, Gribouille. Voilà. Elle avait un talent fou, mais elle n'avait pas envie de vivre. Et tout ce que peut faire l'entourage, est inutile, il n'y avait rien à faire et elle est morte à 26 ans et demi.
En 1968, donc.
Oui, voilà, en 68, voilà. 18 janvier 68.
Évidemment, votre vitalité opposée à la mélancolie,
oui,
de Gribouille, ça fait un sacré et contraste. Hein.
C'est pour ça qu'on s'entendait bien, parce que je la secouais, comme on dit. Mais il n'y avait rien à faire, c'était en elle.
Dans les années 80 aussi, alors vous avez été présente beaucoup sur les scènes d'opérette, hein, il faut le rappeler, Marie-Thérèse Aurin.
J'ai commencé l'opérette en 82 grâce à Jean-Albert Cartier.
Voilà, alors directeur du Châtelet,
du Châtelet,
théâtre musical de
et
Paris.
Et de l'Opéra de Nancy.
Voilà, et il montait des opérettes à ce moment-là au, oui, Châtelet. En fait, il a entendu parler de vous et puis vous a engagé pour des quantités de rôles de fantaisiste.
Il m'a dit, je suis ravie de vous rencontrer. En 10 jours, 4 personnes m'ont parlé de vous. Je fais une distribution, j'ai repris un spectacle de l'opéra de Valonie. Et pour le rôle de Pauline, les 4 personnes qui ne se connaissent pas entre elles m'ont répondu, Marie-Thérèse. Alors il me dit, donc si vous êtes libre, à partir du 22 février prochain, il m'a pas fait ouvrir le bec pour savoir si j'avais la voie de l'emploi, pas du tout. Il m'a dit, vous passez signer votre contrat.
Ah oui, c'est pas mal comme ça.
Et comme il a été content du travail effectué dans Nono Nanette, je me suis régalée.
C'était bien, c'est joli Nono Nanette.
Oh, hein. Et puis c'est très près de la comédie musicale. C'est plus,
voilà,
une comédie,
mais on connaît
Tea
for Two, mais c'est vraiment une jolie pièce,
ouais,
sinon.
Ah, hein, oui, voilà, très jolie.
Voilà.
Et donc le rôle de Pauline, la gouvernante, qui met son grain de sel partout, qui se mêle de tout, je me suis régalée là-dedans.
Ouais.
Et donc il m'a dit, je vous réquisitionne pour l'année prochaine au Châtelet dans La Veuve Joyeuse,
voilà,
qui était mis en scène
par
Alfredo Arias. Alors moi je rêvais de rencontrer Alfredo Arias parce que j'avais vu des spectacles de lui formidables. Et voilà, et je me suis retrouvée dans La Veuve Joyeuse.
Et vous l'avez faite aussi avec Savary. Vous avez préféré la mise en scène d'Arias ou celle de Savary?
C'est très différent. C'est pas du tout le même ouvrage. C'est,
ah oui,
très drôle.
Ouais.
Un même ouvrage traité par 2 metteurs en scène diamétralement opposés, c'est passionnant.
Ouais.
Parce que c'était pas du tout la même chose, la même ambiance.
Il y avait Crespin dans une des productions.
Non, Crespin, elle est venue pour défendre sa fille spirituelle, comme elle disait, qui est une fille, une chanteuse qui a fait carrière depuis. Et Savary lui faisait un peu des misères, parce que Savary, fallait se le faire, comme
ça,
on dit.
Ça dépendait des jours.
Oui, oui, il fallait être costaud.
Être généreux aussi,
fallait être costaud en face de lui.
Ouais.
Alors, Crespin, qui faisait des masterclass à Genève, a débarqué au Grand Théâtre, et alors quand Régine Crespin arrivait, drapée dans son vison, évidemment tout le monde, oh, à l'arrêt, oui, bonjour, bonjour, oh là là, tout le monde, ça volait bas dans la cambuse, comme on dit vulgairement. Et j'étais sur scène, en train de chanter l'air de Quimper Karadec dans La Vie parisienne. J'étais debout sur la table, et vas-y, vas-y, vas-y. Et Crespin s'est arrêté. Elle a regardé vers la scène, elle a fait « Eh ben celle-là, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, elle a une sacrée pétoire. » Venant de Madame Crespin.
C'est joli.
C'était très flatteur.
Voilà donc Marie-Thérèse Aurin, en tout cas une partie de votre vie consacrée aussi à ce merveilleux répertoire d'opérettes. Et puis enfin, j'allais dire, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, en 2015, vous avez
fait tout un disque. Non, ce n'était pas le premier, il y en avait eu un en
68. Il y avait eu un 45 tours avec Serge Lama, qui est un de vos amis, qui avait écrit des chansons pour vous, mais ça n'avait pas été très bien réalisé. Parce
en mai 68, les gens avaient la tête ailleurs.
Et finalement, vous avez pu rassembler quelques-unes de vos chansons préféré dans Intact.
Oui. Produit par Camino Verde, par Clémentine.
Voilà. Clémentine, avec beaucoup de chansons de Jacques de Broncard, qui a été aussi un de vos proches.
Ça a été la rencontre aussi, ça, l'auteur que j'ai aimé par-dessus tout chanter.
Et cette chanson-là qu'on va entendre maintenant, la chanson, qu'est-ce que c'est?
J'ai entendu cette chanson la première fois à l'Écluse et je suis restée plaquée contre la porte du fond.
Qui l'a chanté?
Jacques.
C'était lui-même.
Il était en scène en train de chanter la chanson. Et tout de suite, j'ai dit, cette chanson, je la veux, je la veux. Parce que en 3 couplets, 3 refrains, il a exactement défini notre métier et la chanson en général.
Voilà. Bon. Et là, vous êtes avec votre pianiste.
Oui, c'est Céline Rouleau, ma Céline, qui m'accompagne depuis quelques années maintenant.
La chanson, qu'est-ce que c'est?
deux volets que l'on ouvre un matin. Et puis tiens, Mozart est dans la rue. C'est un soir à Bordeaux, d'horrible solitude. Un coup de poing dans la gueule, un cognac répandu. La chanson, qu'est-ce que c'est? Une bulle de 3 minutes qui vient tenter sa chance chez un programmateur qui n'écoute que l'intro et qui passe à une autre tout en palpant la croûte de ses deux assistantes. La chanson, triste ou gaie, c'est toujours une plainte. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. La chanson, qu'est-ce que c'est? Quand ça marche, mon pote, 170 milliards pour tes 2 ou 3 notes. Sitôt réinvesti dans l'industrie chimique ou dans les camemberts, mais pas dans la musique. La chanson, qu'est-ce que c'est? C'est 100 000 voix qui hurlent, un hymne libertaire, bientôt 200 rougis. Si tu veux être au hit, n'essaie pas d'en écrire, ça ne rapporte rien que 12 balles dans le cuir. La chanson, triste ou gaie, c'est toujours une plainte. Oh, je t'aime, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. La chanson, qu'est-ce que c'est? C'est le show business où se sucrent quelques dizaines de requins. Tant pis, je lui pardonne. C'est elle qui redresse le condamné à mort devant ses assassins. La chanson, qu'est-ce que c'est? 100 bouquets, 1000 gerbes que je te jette au nez, que je te jette au cœur. Il n'y en a plus pour longtemps. Après, on bouffera l'herbe. Mon amour, ne nous déchirons plus. La chanson, messieurs, dames, bons amis, belles garces, c'est notre alcool avant de partir au charbon. C'est notre bras d'honneur à la bourgeoise farce. C'est notre cri de guerre à nous autres. La chanson.
La chanson, qu'est-ce que c'est, Marie-Thérèse Orin, dans cette chanson de Jacques de Broncard. Ça fait donc partie du disque Intact chez Camino Verde, un petit livre disque en plus avec toute une longue interview, des paroles de chansons, des photos. C'est vraiment une petite compilation de vos activités, Marie-Thérèse Orin, qu'on attend de plaisir à redécouvrir avec vous aujourd'hui. Ce qui est merveilleux chez vous, c'est que vous avez plein de souvenirs qui peuvent nous remonter très loin et en même temps, vous ne donnez jamais l'impression d'être passéiste.
Non. Non, voilà. Non, il faut vivre avec son temps. Et puis, il y a plein de gens de talent à l'heure actuelle. Ouais. Bon, je trouve que on les néglige un peu, et c'est dommage.
Vous avez quelques chouchous, si je veux dire.
Il y a un lieu.
François Morel, par exemple.
Ah, François Morel. Mais François, ça y est, il est sur le rail.
Oui,
ou combien.
Vous l'aimez depuis le début.
Mais voilà. Ça a été une rencontre formidable. Je suis allée l'écouter un dimanche en matinée au théâtre de Suresnes. Et je l'ai attendu à la fin devant les loges, comme les fans. Oh, il m'a dit bonjour, comment ça va? Vous êtes là? Et je lui ai dit, écoutez, j'ai adoré votre tour de chant, j'ai adoré. Ça m'a fait penser à Bourville, ça m'a fait penser à toute cette époque émouvante où les gens aimaient se faire bousculer, enfin se faire émouvoir. Et j'ai passé un moment magnifique.
Dans les gens plus jeunes, il y a Emmeline Bayard.
Il y a Emmeline. Alors ça a été aussi une rencontre. Je l'ai vue dans Fric Frac, au Théâtre de Paris. C'est un bulldozer. C'est en scène, c'est époustouflant. Et j'ai dit, oh là là, elle est formidable. Et Yves Geland, le réalisateur, qui est un grand copain, m'a dit, mais va la voir, on l'a vue, on y retournait 2 fois. Au Kibélé, qui est un petit lieu.
Absolument.
Faudrait que les gens reprennent l'habitude
là-bas.
D'aller dans les petits lieux.
Pour l'instant, évidemment.
Elle donne un tour de chant magnifique. J'y suis allée 3 fois, j'ai rigolé, j'ai trouvé ça formidable. Et je l'ai revue, elle a monté On purge bébé, qui se jouait
en scène,
à l'atelier. Elle a fait une mise en scène formidable, originale, drôle. Elle a incorporé là-dedans des chansons. C'est drôle, je me suis bidonnée. Et je l'ai rencontré, et puis aux 20 ans de votre émission. On
voilà,
s'est
elle était là
dessus.
Également.
Et c'est une amie, c'est devenu une amie. Et vraiment, c'est une fille. Elle va faire une carrière parce que c'est magnifique ce qu'elle fait. C'est magnifique.
Bon, et alors, en ce moment, évidemment, c'est pas facile de faire des projets, mais si vous avez la possibilité dans quelques mois de remonter
oui,
sur scène,
oui, mais
vous
bien
le ferez,
sûr,
oui.
Mais on ne demande que ça, d'y retourner.
Oui.
Mais vu
vous
les circonstances,
non.
Le plaisir est le même.
Oui.
Et vous savez, je vais vous dire, la grande qualité de ce métier,
oui.
On va partout. J'appelle la société un millefeuille. Et on va dans toutes les couches du millefeuille, nous les artistes. On va chez le ministre, on va chez le président, mais on va aussi chez la femme de ménage. Et moi, j'ai rencontré des femmes de ménage extraordinaires. Ce métier est plein de joie.
Ben merci Marie-Thérèse Aurin, non seulement de nous le dire, mais de nous le faire comprendre.
Et je vous dis, je trouve que les gens, il faudrait être plus curieux. Il faudrait aller un peu partout, dans toutes les couches du millefeuille. Aller dans toutes les couches du millefeuille. Ça vaut la peine.
On va se quitter avec quelqu'un que vous adorez aussi, je crois que c'est Alain Souchon.
Oh oui.
Et une chanson.
C'est mon voisin, il habite la rue en bas
de
chez
moi. Dans le quartier Montparnasse, on ne va pas dire l'adresse,
oui.
Mais effectivement. Voilà, mais justement, en plus, une chanson qui évoque un peu la rive gauche, les cabarets.
C'est notre école. Voilà. C'est ce que j'ai dit quand les cabarets ont commencé à fermer. J'ai dit, on nous a volé notre école. Il faut que ça revienne. J'espère que le forum Léo Ferré, qui n'est pas sur la rive gauche, qui est à la porte d'Ivry, mais j'espère que ça va rouvrir, parce que c'est un lieu où il se passe des choses formidables, où il y a des jeunes chanteurs, il y a des jeunes pleins de talents.
Merci Marie-Thérèse Aurin, et j'espère vraiment à bientôt.
À bientôt Benoît.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre, l'aine du vieux Ferré, les cris, la tempête, Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, de musique et de poésie. Marchant mal appris, qui ailleurs ont déjà tout pris, viennent vendre leurs habits en librairie. En librairie, si tendre soit la nuit, elle passe au Mazelda, c'est fini. Miles Davis qui sonne, Sagrego, tous les Morrison, leur Nico. Rive gauche à Paris, oh mon île, oh mon pays, de musique et de poésie, d'art et de liberté éprise, elle s'est fait prendre. Elle va mourir quoi qu'on en dise, et ma chanson la mélancolise. C'est du théâtre et des souvenirs, mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir, à traîner sur les berges. Venez voir, on dirait Jane et Serge sur le pont des arts. Rive gauche à Paris, adieu.
Rive gauche, une belle chanson d'Alain Souchon, choisi par mon invité aujourd'hui, Marie-Thérèse Aurin. Et je vous invite à retrouver notamment son livre-disque intact aux éditions Camino Verde. Je pense que vous trouverez tous les renseignements nécessaires d'ailleurs sur le site personnel de Marie-Thérèse Aurin. j'avais envie de vous faire réentendre Karl Komsak II, ce compositeur qui était à l'honneur du dernier concert du Nouvel An avec une grande valse. Et là, j'ai choisi une gavotte, dit Lautenschlägerin. La gavotte, on l'entend un peu moins d'ailleurs dans les concerts de musique viennoise, mais c'était une danse rococo très à la mode aussi à la fin du 19e siècle, ici par l'orchestre philharmonique tchèque sous la direction de John Georgiadis.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis je voulais qu'on retrouve aussi quelques instants le cher Michel Trampon, que j'ai eu la joie de bien connaître d'ailleurs parce que il jouait l'un des rôles principaux dans une comédie musicale, Le Fantôme de l'Opéra Comique, que j'avais écrite en 2004 et qu'on avait donné pendant un mois à la salle Favart, et j'avais pu apprécier à la fois la gentillesse de l'homme, son talent d'acteur, sa merveilleuse voix de chanteur. C'était vraiment un bonheur de travailler avec lui. Fort heureusement, il nous en reste d'assez nombreux disques et notamment beaucoup d'Offenbach dans lequel il pouvait conjuguer justement le talent d'acteur et le talent de chanteur. Je vous propose d'écouter tout de suite dans Monsieur Choufleury l'air de Petermann.
On est sans chaque créature à reciter main de la nature. Les facultés et le moyen de suffire à son entretien. Mais il ne faut pas confondre un homme avec une bête de somme. Non, non, il n'a deux jambes, deux bras, dix doigts. Il ne sait pas tout faire à la fois. Non, il ne sait pas tout faire à la fois. Non, 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 non. Soleil est éclose. Pour voler, le ciel fit en gros les cuisinières et les oiseaux. Moi, c'est pour servir, je m'en pique, que le sort m'a fait domestique. Oui, mais nous, je n'ai deux jambes, deux bras, dix doigts. Je ne sais pas tout faire à la fois. Non, je ne sais pas tout faire à la fois. Non, 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 je ne sais pas tout faire à la fois.
Michel Trampon dans le rôle de Petermann de Monsieur Choufleury, un rôle de Belge d'ailleurs, ça lui allait très bien puisqu'il était né à Boussu-les-Mons en Belgique où il est mort également à l'âge de 92 ans. Faut rappeler, je le disais tout à l'heure, en plus la richesse de l'école de chant belge et sa contribution à l'école française, notamment l'Opéra de Liège et la Monnaie de Bruxelles qui ont longtemps été des sanctuaires du répertoire français. C'est pourquoi eh bien tant de nos grands chanteurs sont venus de ce pays. On peut penser bien sûr à José Van Damme, mais on peut rappeler aussi que Gabriel Baki avait vraiment fait ses classes à la Monnaie de Bruxelles dans tous les rôles possibles du répertoire français. C'était aussi le cas donc de Michel Trampon qui vient de nous quitter. Et on va le retrouver dans Richard Cœur de Lion de Grétry dont il a fait l'enregistrement de référence. Je vous propose pour finir un trio. On reconnaîtra aussi la jolie voix de Maddy Mesplet. Et vous verrez la qualité en plus de cette musique de Grétry qu'on écoute trop peu souvent. Voilà, c'est ainsi que se termine donc mon hommage à Michel Trampon.
Le gouverneur pendant la danse viendra se rendre dans ses lieux.
Oh, quel bonheur que sa présence pour moi doit embellir ces lieux.
Nous n'avons point de mystère, je lui disais que mes yeux revoyaient enfin les cieux.
Parlez,
ivresse.
Son ivresse, ma chère.
Son cœur sera toujours, toujours constant. Son cœur sera toujours, toujours constant. Son cœur sera toujours, toujours constant.
Parlez, parlez sans mystère. Ce bonhomme a su me plaire.
Non, 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 mon père. Nous n'avons point de mystère. Il me disait que ses yeux me voyaient enfin les siens. Nous n'avons point de mystère. Non, 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 mon père.
Il te disait que oui, ses yeux revoyaient enfin oui, la lumière. Parlez, parlez sans oui, mystère.
Je lui disais que mes yeux revoyaient enfin les siens.
Il te disait que oui, ses yeux revoyaient enfin.
Oui, mon père. Je voudrais vous dire encore.
Parlez, parlez sans mystère.
Je ne veux moins qu'il l'ignore.
Le bonhomme a su lui plaire.
Parlez, parlez sans mystère.
Ce n'est pas moi, c'est mystère.
Ce n'est pas moi, c'est mystère. Laissez son plaire.
Le délicieux trio de Richard Cœur de Lion de Gretry avec une distribution de haut vol, Maddy Mesplet, vous l'avez reconnu, Michel Trampon, ils nous ont quittés tous les deux cette année. Heureusement, Charles Burle, lui, est toujours bien parmi nous. J'espère qu'on l'entendra à nouveau bientôt dans cette émission. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Emmanuel Morse d'Incan et Emmanuel Rose, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, eh bien, j'aurai la joie d'accueillir Sophie Darel. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.